des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, une rencontre au sommet entre Julia Kristeva et Fyodor Dostoïevski. Une rencontre qui fait l'objet d'un livre au titre simple mais efficace, Dostoïevski. Signé précisément Julia Kristeva, publié chez Buchet-Chastel dans la collection Les auteurs de ma vie. Fyodor Dostoïevski n'est pas là physiquement, hélas, mais il plane dans ce studio au-dessus de Julia Kristeva qui, elle, est avec nous et nous avons beaucoup de chance. Bonjour Julia Kristeva.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes l'une de nos plus grandes théoriciennes de la littérature. Née en Bulgarie en 1941, vous vivez en France depuis 1966. Vous avez publié une trentaine de livres, je ne les ai pas tous comptés. C'est à peu près ça, on dit une trentaine.
On peut s'arrêter là, oui.
Non, on s'arrête surtout pas là.
S'arrêter dans le conte, parce que voilà. Ça dépasse. Le conte dépasse, mais ça fait rien. Les meilleurs, parmi les meilleurs, on compte 30.
Très bien. Salué dans le monde entier, Céline. Vous êtes aussi linguiste, psychanalyste, professeur émérite à l'Université de Paris 7 Diderot, professeur honoris causa de nombreuses universités aux États-Unis, au Canada et en Europe où vous enseignez régulièrement. Vous êtes couverte de prix, le prix Holberg en 2004, le prix Hannah Arendt en 2006, le prix Vaclav Havel en 2008. Parmi ses livres, des essais comme « La révolution du langage poétique »,« L'avant-garde à la fin du 19e siècle » sur Lautréamont et Mallarmé en 1985, « Le temps sensible »,« Proust et l'expérience littéraire » en 1994, « Le génie féminin » sur Hannah Arendt en 99, « Mélanie Klein » en 2000, « Colette » en 2002, « Beauvoir présente » en 2016 et, j'adore le titre, avec Philippe Solers en 2015, du mariage considéré comme un des beaux-arts. J'adore ce titre. Je me suis demandé si c'était un clin d'œil à de l'assassinat considéré comme l'un des beaux-arts de Thomas de Quincey. Le mariage serait donc un assassinat, Julia Kristeva.
C'est une allusion en effet à Thomas de Quincey, mais aussi à d'autres, la tauromachie, etc., de Léris. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est l'hétérosexualité, la relation homme-femme. On le voit avec tous les abus, plaintes et récupérations quand on se sort de l'emprise. Mais il me semble qu'une fois les dénonciations et le mal-être faits, éventuellement jugés, il faudrait entrer dans le jardin secret de la sexualité masculine et féminine et voir comment tout cela s'ajuste ou pas dans un couple. C'est une véritable alchimie. Et quand on dit alchimie, on est tout près des arts. C'est un art. Un des beaux-arts, va-t-on dire, puisque mon mari Philippe Solers, c'est un artiste et moi, j'essaie de comprendre les artistes. Donc, il y a de la violence. Il faut pas la dénier. On parle beaucoup aujourd'hui de l'apaisement, se libérer de l'emprise. Mais dès qu'il y a du désir, il y a de la perversion. Le désir est pervers parce qu'il veut échapper des normes, des grilles, du consensus, pour apporter quelque chose d'indicible, qui est hors norme. Donc, entre cette perversité inhérente au désir et la perversion, il y a des abîmes. Mais l'ajustement est une véritable réussite. Et donc, le mariage, j'espère aussi le vôtre, cher ami, est un des beaux-arts.
Je ne suis pas interrogée, Julia.
Non, mais disons,
mais le couple, le mariage,
pour ceux qui nous écoutent, le couple, oui.
Voilà, le couple.
Oui, d'ailleurs, nous, on s'est mariés parce que je devais partir en Bulgarie si je n'avais pas de papier, comme on dit. Ouais. J'étais une migrante. Mmh. Mais de toute façon, quelle que soit la loi, il y a un consentement mutuel qui vaut loi pour les amoureux. Mmh. Et quand je dis vous, je parle à travers vous, à ceux qui nous écoutent. J'espère pour eux que leur mariage et ou essaye d'être comme un des beaux-arts.
On l'espère aussi. Je pourrais rajouter aussi à cette liste, Julia Kristeva, des romans. Le vieil homme et les loups, en 1991. Possession, en 1996. Meurtre à Byzance, en 2004. Ou un grand récit, Thérèse, mon amour, en 2008, sur Sainte Thérèse d'Avila. Un livre que vous aviez dédié à votre père, qui était théologien. Qu'est-ce qui unissait, selon vous, puisque vous lui avez dédié ce livre, ce père et cette femme née en 1515?
Ce qui les unissait, c'est la foi, le Christ. Moi, je n'étais pas élevée dans cette dimension, même si mon père essayait de nous mener à l'église quand on était enfant, moi et ma sœur, jusqu'au moins 7-8 ans. Mais je me considère comme un enfant des Lumières. Le communisme, dans ce qu'il a de beau, et de prometteur, car il y a encore beaucoup de fantasmes pour prolonger et innover cette idée, c'est qu'il s'est appuyé sur les idées de Lumière et qui ont ciblé les abus des enfants, des serfs, des femmes. Il y a toute une libération des individus qui a conduit aux droits de l'homme et au démantèlement du continent et du contenant théologique pour ouvrir à la nouvelle philosophie et les sciences de l'homme dont je me réclame. Donc, ma mère ayant fait des études de biologie, je m'appuyais sur elle pour traiter mon père de dinosaures, d'archéopithèques, toutes sortes de compliments qu'il rendait fou de rage et qui conduisait à des débats, mais il avait le bon sens de maintenir le dialogue et de m'apprendre à discuter, et donc de s'avouer parfois vaincu par la discussion menée par sa fille. Donc c'est un héritage extrêmement important.
Donc une longue liste de livres, Julia Kristeva, à laquelle vous ajoutez aujourd'hui ce Dostoïevski, qui commence par ces mots à propos de l'auteur de L'Idiot des frères Karamazov ou de Crime et Châtiment. Épris d'absolu et explorateur clinique dans le sous-sol des passions humaines, en proie à l'angoisse de mort et à la quête infinie de sens, sur le fil du crime et du sublime, de l'abjection et de la sainteté, Dostoïevski, 1821-1881, hante la conscience européenne et mondiale depuis un siècle et demi. Nietzsche, Proust, Kafka, Berdiaev, Chestov, Sartre, Camus, Gide, Sarraute, Nabokov, Visconti, Bresson, Kurosawa, Vajda et bien d'autres. Julia Kristeva, en quoi donc Dostoïevski hanterait-il la conscience occidentale? Je vous demande ça parce que hanter, ça veut dire qu'il y circulerait un peu comme un fantôme.
Oui, en effet, c'est un écrivain qui a énormément écrit. La traduction de ses livres par Markovitch maintenant dans Actes Sud comporte des milliers de pages. Et je ne suis pas sûre que dans cette époque où la lecture devient un art pour des élus, on puisse vraiment le lire à fond et suivre cette phrase haletante, angoissée, épileptique et jouissive et contagieuse. Alors, du coup, ces lecteurs, parce que en le lisant, j'ai mis au moins 4 ans, tout en faisant autre chose, et notamment mes patients, les lecteurs essayent de le caser dans une idéologie ou une foi ou un combat politique. C'est normal et c'est la manière selon laquelle la société s'approprie un écrivain. Par exemple, en France, il y a des textes de tous ceux qui appartiennent à la foi orthodoxe et qui ont mis en évidence le croyant, l'orthodoxe, assez atypique d'ailleurs qu'il est, mais qui a été soutenu en effet par la foi orthodoxe et qui l'a fait survivre au bagne. C'est indéniable et il faut s'occuper de cette partie de sa vie, ce que je n'ai pas fait.
Il ne quittait jamais sa Bible, d'ailleurs, qui lui avait été offerte.
Qui était offerte par une des femmes des bagnards et qui l'a accompagnée et qui lui a permis de comprendre l'âme russe, l'âme orthodoxe de son peuple, parce qu'il était converti aux idées de la Révolution française auparavant. D'autres voient en lui le représentant du monde absurde, l'existentialisme français.
Camus.
C'est beaucoup Camus, exactement. Et Bakhtine, dont vous m'avez parlé.
Mikhaïl Bakhtine, oui, voilà, on en parlait avant l'émission, c'est vrai que c'est le grand théoricien russe du post-formalisme.
Du post-formalisme,
voilà,
exactement.
Qui a travaillé beaucoup sur Rabelais et sur Dostoïevski, dans la dimension carnavalesque.
Absolument.
De sa littérature.
Donc, vint Bakhtine, et il a essayé de se pencher sur la phrase, la poétique de Dostoïevski, la narratologie, on dirait aujourd'hui. Comment il ficelle ses textes. Et il trouve le côté tragique, évidemment, l'absurdité de la vie, le meurtre, Crime et Châtiment. Mais il trouve aussi cette complexité de la phrase qui rit, qui se moque, qui est sarcastique, qui ne perd pas le fil de l'éternité, mais qui est complexe. Et ça, Bakhtine, avec son génie particulier, en a trouvé les antécédents dans un genre qui s'appelle la ménipée du Moyen-Âge, qui est un genre pas cynique, mais qui tourne à dérision quand même l'existence humaine, et aussi dans le carnaval. Et il a esquissé une théorie sur la naissance du roman, que j'ai reprise, que j'ai développée dans mon travail, dont il ressort que le roman est l'antécédent du carnaval qui se jouait sur le parvis de l'église et de la messe.
L'antécédent ou le parallèle?
C'est cette théorie qui est l'antécédent du roman. Enfin, cherche l'antécédent du roman. Le roman surgit après le carnaval et la messe, comme des ingrédients qui sont pratiqués par le personnage X, qui devient un romancier quand il est capable de faire la synthèse de cet élan vers l'avenir, cette compétition pour la mort qu'on trouve dans le souffle romanesque qui raconte une histoire avec des vies, des morts et des dénouements, et le carnaval où ça n'a aucun sens. Donc Rabelais, selon Bartine, est issu, et on voit dans son laboratoire, ces deux ingrédients, ces deux pressentiments du romanesque qui va se développer dans les cultures européennes.
Et Dostoïevski
a ça. Et Dostoïevski aurait, selon Bartine, sans avoir été un grand spécialiste ni du Moyen-Âge ni de l'Église, mais il aurait pressenti ça, et il a fait exploser dans le roman du XIXe siècle ces constituants du roman qui nous font rénover le roman et l'ouvrir à autre chose.
Alors précisément, vous expliquez que Dostoïevski continue, je vous cite, à exciter le marketing hyper connecté. Il existe 16 versions en chinois de Crime et Châtiment. Qu'est-ce qui fait, selon vous, l'importance de cet écrivain aujourd'hui? Par exemple, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes gens pour les inciter? Déjà, est-ce qu'il faudrait les inciter à lire Dostoïevski? Je pense que oui, pour vous avoir lu. Qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? Pourquoi il faut lire?
Moi, j'essaie de dire, c'est pour ça que de toutes ces dimensions que nous avons esquissées rapidement, je ne l'ai pas prise toute pour faire ma préface de 70 pages. J'ai pris ce qui me paraissait le plus actuel. Le plus actuel, c'est le nihilisme. On ne croit en rien, mais on croit en la violence et on casse tout. Donc ça, c'est les démons. Et en cassant tout, on arrive jusqu'à matricide et féminicide et la pédophilie. Tout est permis, dit Dostoïevski, sauf ne touchez pas aux enfants. Et là, quand même, il va mettre en scène Stavrogine et Matryosha.
Oui, qui touchent eux aux enfants.
Qui se suicident pour ça.
Mais
qu'on va suicider pour ça. Donc il le punit d'une certaine manière. Il entre dans la peau des diables nihilistes et criminels pour mieux les expulser. C'est un acte cathartique, en fait. Il ne juge pas. Il les fait exploser et se tuer éventuellement. Mais ce sont des symptômes qui sont contemporains, c'est-à-dire le nihilisme, c'est-à-dire le féminicide, c'est-à-dire la pédophilie. Et ça, c'est des traits d'époque, mais ce sont des traits anthropologiques profonds, ce qui me fait dire qu'il est un précurseur de Freud, parce qu'il fait une analyse, pas du refoulé, mais du clivé, de ce qui est en deçà de refoulement freudien, qui touche à la chair du monde, à la chair de l'individu, qui est psychosomatique, en fait. Et c'est l'épileptique qu'il était qui a vaincu.
Qui a psychosomatique, expliquons, faisant un peu d'étymologie.
Psychosomatique, ça veut dire le corps et l'âme.
Voilà, qui articule
quand
le corps.
Quand vous avez mal à la tête parce que vous êtes angoissé, vous faites un symptôme psychosomatique.
Soma, le corps, et psyché.
Voilà. Et lui, il était tellement bouleversé dans sa vie qu'il se tuait lui-même. Il est angoissé, mais il ne va pas seulement faire un cauchemar, il va faire une crise épileptique qu'il réussit à sublimer dans le personnage du prince Mishkin qui vous a intéressé tout à l'heure.
Ah, j'aime beaucoup le prince Mishkin. Je vous cite quand même sur cet aspect, justement, sur l'abus sexuel et les enfants, Julia Kristeva, puisqu'il faut rappeler que ce Dostoïevski, dans cette collection Les auteurs de ma vie, en fait, est composé d'un texte de vous, puis d'une anthologie.
Oui.
Voilà, les textes, évidemment, choisis aussi par vous, selon un certain nombre, d'ailleurs, de mots clés, jouissance, en est un, les enfants en est un autre. Je vous cite... Les enfants et les adolescents sont à protéger en priorité, dit en substance l'écrivain, quand il fait se suicider les abuseurs Svidrigailov et Stavrogin. Tandis que le publiciste Dostoïevski, journal d'un écrivain, s'insurge contre la maltraitance infantile, fût-elle familiale, mais aussi contre la nouvelle juridiction quand elle se soumet, selon lui, au schéma du rationalisme occidental éclairé. Irrésistible volupté enfantine qui, non contente d'être polymorphe, comme la sexualité infantile selon Freud, s'affirme franchement perverse. Et puis à ça aussi, lorsque les humains reconnaîtront que l'innocence enfantine est la seule limite inviolable, la dernière des interdictions qui subrepticement prescrivent « transgresse et tu pourras jouir », l'abus sexuel de l'enfant va focaliser pour l'annuler l'urgence libidinale des désastrés de l'amour. Des nihilistes en tout genre assoiffés des jouissances les plus grossières et qu'aucune norme, aucune loi ne retient intérieurement, diagnostiquait l'écrivain publiciste. Le péché de Stavrogin s'appelle aujourd'hui criminalité pédophile, l'unique jouissance sanctionnée par les droits de l'homme, parce que, sans libre consentement, Dostoïevski en aurait été le prophète pour l'ère du tout est permis. Pourquoi écrivain publiciste ?
Parce que il a écrit aussi, en dehors du roman, où il met en évidence l'acte pédophile et le condamne sous la forme de suicide qu'il imagine ou qu'il pose pour Stavrogin, Dostoïevski fréquentait les tribunaux. Et il assistait à des procès où des abuseurs d'enfants, ou plutôt des parents qui les maltraitaient, on parlait pas trop du sexe dans ces périodes-là, mais on voyait qu'il y a une violence passionnelle des adultes sur les enfants. Il condamnait évidemment les abuseurs, mais on voyait que son cœur se portait sur l'enfant et il essayait de faire admettre non pas ce qu'on appelle maintenant le droit de l'enfant, le respect de l'enfant, mais le droit qu'a l'enfant de jouir. Parce que les pères les battaient dans la mesure où ses enfants se masturbaient. Ils trouvaient ça délirant. Ils attaquaient davantage les pères que les enfants. Donc, il écrit, il y a dans le journal d'écrivain, je vous signale des pages entières où il se consacre à cette situation. Et c'est très peu connu par la critique dostoïevskienne. Peut-être l'actualité nous permet de découvrir des perles de ce type. Mais c'est un homme qui dépasse son temps.
Il prophète aujourd'hui. Dites, voilà. Oui. Prophète contre le tout est permis.
C'est très, si vous permettez, je vais m'étendre un peu là-dessus parce que tout est permis. Il, d'une certaine manière, il comprend les nihilistes qui tuent quelqu'un pour annoncer le grand soir. C'est le cas Chatov et Chigaliov. C'est aussi le moment où les révolutions vont prendre le pouvoir. Tout est permis, tous les sexes sont permis, y compris la guerre entre les hommes et les femmes, ça lui paraît moins grave. Il y a une seule limite dans le monde où tout est permis, ne touchez pas à l'enfant.
Ouais. Donc ça, c'est ce que vous diriez à un jeune homme ou à une jeune femme aujourd'hui, pour l'inciter lire Dostoïevski.
Ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde sécuritaire, parce que nous n'avons pas de lieu fixe, l'Internet nous permet tout, mais en même temps, il nous prive d'ancrage et il y a une sécurité qui se propage, ne serait-ce que par l'hyperconnexion. Il y a aussi l'instabilité économique qui rejette beaucoup de gens au bord de la route financièrement. Il y a les flux migratoires. Le monde est en chaos. Dostoïevski ne juge pas et il ne nous protège pas parce que la société d'aujourd'hui, face à cela, fait des lois, condamne,
et juge
et fait ce que j'appelle moi la moraline. On m'a fait comprendre que ça venait ce que je savais de Nietzsche, mais c'est une manière, il faut le redire. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de laisser tout passer et on peut s'indigner et on a le droit de se construire quand on a souffert et on était détruit. Mais à partir de là, il faut aussi ne pas être binaire entre des victimes et des bourreaux. Et essayer de comprendre pourquoi les bourreaux sont devenus bourreaux. Et c'est ce qu'il fait tout au long de son atterrissage dans le sous-sol de l'homme. Stavrogin est un personnage affreux, mais extrêmement fascinant. Parce qu'il entre dans dans la fabrication d'un nihiliste aussi passionnel et aussi féroce et élégant en même temps. Et en même temps, de comprendre la vie de l'enfant, la vie de la femme. Nastassia Philipovna, qui est une des magnifiques
héroïne, dans l'idiot.
Elle se laisse faire. Elle a un abuseur. Elle finit par exploser contre lui et ne se comporte pas comme femme objet, mais elle finit par être tuée par un autre.
Vous donc, en parlez, d'ailleurs, on y reviendra.
Je n'ai pas répondu à votre question. Par rapport à la moraline, les jeunes qui osent encore lire et qui savent encore lire, c'est la littérature qui donne un spectre plus complexe de la vie humaine et nous permet de la respecter et de la sortir de l'emprise, de lui rendre une certaine liberté.
Le roman comme instrument de connaissance du
monde.
On va continuer avec vous, Julia Kristeva, c'est passionnant. Parler de Dostoïevski, parler de Nastassia, dont vous faites aussi peut-être l'ancêtre des femmes MeToo, vous en parlez aujourd'hui.
C'est ma préférée.
On l'adore. Mishkin et Nastassia,
voilà.
Quel couple.
Et il y a
et la beauté
qui est plus compliqué, donc on est moins, c'est Mitya Karamazov.
On parlera d'eux avec vous. On écoute votre premier choix musical, vous avez choisi Anton Webern, Das Augenlicht, opus 26, sous la direction de Pierre Boulez, orchestre symphonique de Londres, le chœur aussi de John Aldiss. On écoute.
France Culture. Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Anton Webern, Das Augenlicht, opus 26, sous la direction de Pierre Boulez, Orchestre Symphonique de Londres, le chœur aussi de John Aldiss. C'est le premier choix musical de Julia Kristeva, qui est avec nous pour ce temps des écrivains, pour nous parler de son Dostoïevski, publié chez Buchet-Chastel dans la collection Les auteurs de ma vie. Julia Kristeva, pourquoi ce choix musical, Anton Webern?
Parce que le récit de Dostoïevski n'est pas classique. Il est un récit très moderne, comme la musique sérielle ou dodécaphonique. Il faut avoir une autre attente vis-à-vis de Dostoïevski, comme on a une autre attente vis-à-vis de Boulez ou de Webern.
On a des préjugés sur Dostoïevski, justement, sur cette...
On a des préjugés, à savoir, comme disait mon père, que c'est trop lourd, trop brumeux, etc. Ou alors trop religieux.
Oui, votre père...
Ou pas assez français.
Il vous disait, alors je le cite, destructeur, enfin je le cite, je vous cite.
Tel que je le cite.
Le citant. Oui. Destructeur, démoniaque et collant, trop c'est trop, tu n'aimeras pas du tout, laisse tomber. Est-ce que c'était pas une ruse quand même? Parce que moi si on me dit ça et que je suis jeune homme, je me précipite.
C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait parce que moi j'étais un jeune homme, c'est mon côté bisexuel et garçon.
Ou jeune fille, hein, je disais jeune homme. Jeune
non,
fille.
Mais généralement les filles n'osent pas trop se. Bon, à l'époque, maintenant elles osent tous les filles, mais à l'époque ne se révoltaient pas contre papa. Mais j'étais le garçon de la famille, on allait au match ensemble et je dis non, mais c'est tu comprends rien et au contraire je vais le lire. Et j'ai commencé à le lire. C'est ce que je dis tout de suite après. C'est écrit mes châtiments. Et là, je suis tombée dans un monde aussi très compliqué, d'où la peur que peut susciter Dostoïevski. On comprend pas, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il y a une croix qu'on lui donne. Est-ce que c'est la bonne croix? Qui a pris cette croix autour du meurtre de l'usurière? Et Sonia, qui est la femme qui va le sauver, qui a hérité de la croix, mais de laquelle croix? Et pourquoi il se donne des croix? J'étais perdue.
Et chacun porte sa croix.
Voilà, c'était l'idée. Mais entrer dans le texte, je comprenais, mais vivre selon ce texte tarabiscoté, je n'étais pas prête.
Pourquoi disait-il collant? C'est étonnant. Comme,
mais parce que comme je adjectif. Crois que s'il voulait dire contagieux.
Oui.
Dans ça, le mauvais sens du terme.
Ouais.
Ça va te pourrir, t'intoxiquer.
C'est poisseux aussi. C'est vrai qu'il y a cette... Oui. Je me souviens du sang dans les cheveux, justement, de l'usurière et de sa fille. Et tout ce côté même neigeux.
La neige.
La boue et la neige.
Mais oui, par exemple, les corps de Dostoïevski, ils ne sont pas dessinés. Ils sont à l'unisson avec un paysage brumeux ou neigeux. Mais ça, c'est sa vision qui consiste à dissoudre les apparences et d'entrer dans la chair des mots. C'est une phrase que j'ai forgée chez lui et maintenant, je travaille en psychanalyse en disant à mes supervisés et dans ma conception de l'écoute des patients, chercher à travers les mots et le récit d'entrer dans la chair des mots, leur passion, leur pulsion, ce qui ne se dit pas. Il est constamment sur cette brèche et je crois que c'est le propre de la littérature, mais il y va à fond.
D'être dans la chair, de retrouver la chair des mots. Ouais.
Mes grands auteurs qui sont dans cette lignée, mais de manière, vous allez voir, très différente que Dostoïevski et un professeur de littérature ne les mettrait pas dans le même paquet, c'est Colette. La sensualité de Colette, rose, noire, confiture, d'odeur. Et on est là, on est dans la chair des mots. C'est pas une histoire de rose.
C'est pour ça qu'on aime la littérature.
Mais
c'est
oui,
ça,
les Proust, les phrases de Proust sont dans cette dimension. Et Céline, l'opéra de Déluge. On raconte une histoire qui est ce qu'elle est, mais c'est la passion vibrante qui vous dégoûte ou qui vous séduit. Et c'est entre les deux, c'est ça qui fait que la personne est perdue si elle n'a pas assez de repères, elle est dévorée par cet auteur. Et il est collant parce qu'il décrit à la fois la passion, l'exaltation, mais quelques minutes plus loin, il va être dans quelque chose de négatif, de dégoûtant, et notamment quand il perd. Au moment de la perte, il est aussi sidéré.
Quand il perd au jeu, hein, c'est ça,
dans le joueur. Oui, on parle de casino. Il est complètement dévasté, c'est la description sensuelle de la mélancolie, ça il faut le faire aussi. Il est contagieux, c'est ça que voulait dire mon père.
Et dont c'était l'auteur préféré.
Dont il s'était l'auteur préféré, mais il pensait qu'il avait la capacité de vivre ça et de ne pas devenir esclave. Mais dans cet ordre d'idées, je parlais du fait qu'il est difficile de dire qu'on aime Dostoïevski. Et le premier chapitre de ce livre s'appelle « Peut-on aimer Dostoïevski ?» Moi, je ne dis pas que je l'aime. Je dis qu'il me fascine, qu'il me rend curieuse et qu'il me met au défi de percer cette complexité humaine qu'il révèle. Parce que je crois qu'elle est vraie. Et dans cet ordre d'idées, il y a deux éléments que je voudrais souligner. Dostoïevski a été radiographié par Freud, qu'il a découpé en quatre, l'écrivain, le névrosé, le croyant, le pêcheur, et il dit qu'il ne l'aime pas, mais il le range à côté de Shakespeare. Donc on peut continuer dans cette direction.
Où il y a ce tragique et ce carnavalesque d'ailleurs.
Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui pardonner, c'est son antisémitisme. Et il y a un texte dans le journal d'écrivain qui appelle « La question juive ». Il explique pourquoi il adore les juifs, mais quand même ils sont insupportables. Donc ça, c'est à lire par tous ceux qui s'intéressent à l'antisémitisme orthodoxe en particulier. Et aussi, un moment dans son roman, dans « Les frères Karamazov », où la petite Lisa demande à Alyosha Karamazov, qui est un des personnages les plus proches des idéaux de Dostoïevski, lui demande « Est-ce que c'est vrai que les Youpins violent les enfants et les égorgent ?» Et il dit « Je ne sais pas ». Alors on a discuté là-dessus. Certaines disent « Mais non, mais ça fait partie de la polyphonie du roman, c'est un personnage, ça déclenche le désir de comprendre et même de s'insurger ». Moi je pense que non, là il se dérobe. Et il montre sa fascination haineuse vis-à-vis de l'histoire biblique dont il se sent en quelque sorte descendant et tributaire. Et ce qui va un peu dans ce sens, parce qu'on parlait du casino et c'est cette histoire du casino qui m'a fait rappeler une anecdote que personne ne connaît ou très peu de gens, il dépensait tout au casino. Et il partait à zéro. Il avait vendu les avoirs de sa femme, etc. Et un jour, il va à chaque fois à l'église pour se confesser et pour arrêter le jeu. Et un jour, à Wiesbaden, ses pieds le portent dans une synagogue. Il se rend pas compte qu'il est dans un état hypnotique, mais il voit que c'est une synagogue. Le Dieu juif lui a parlé. Et à partir de ce moment-là, il écrit à sa femme qu'il va arrêter. Il a arrêté de jouer parce qu'il a rencontré le Dieu juif.
C'est-à-dire que dans le joueur, c'est dans le joueur.
Dans le joueur, voilà. Il y a une compétition avec la toute-puissance des Juifs dans l'argent, par l'argent. Il va essayer de faire mieux, quitte à se perdre. Le Dieu juif lui parle, il s'arrête. et il continue quand même à écrire sa vision complexe du judaïsme. Un dernier exemple peut-être, je pense que nous sommes dans une époque où l'antisémitisme se montre de manière extrêmement pernicieuse, y compris récemment au César. Il avait un grand copain, le grand philosophe orthodoxe Vladimir Soloviov, avec lequel il faisait des pèlerinages dans des monastères mystiques optinaux. Et ce Soloviov a écrit un texte, son dernier texte, qui est un récit. On est à la fin du monde, c'est l'antéchrist qui règne, qui a été peut-être favorisé par les juifs, mais à la fin, c'est un juif qui va se révolter pour chasser l'antéchrist. Donc vous voyez ce nœud complexe entre adoration et effroi, qu'on appelle, nous en psychanalyse, la enamoration. Et il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Ça, c'est encore quelque chose de contemporain
que pour lequel il faut lire
Dostoïevski nous soumet et qu'il faut continuer à analyser.
Alors, ce qui est étonnant, Julia Kristeva, c'est que vous avez déclaré dans Vanity Fair le 20 juillet 2018, après la pénible affaire de mars 2018 qui avait vu des journaux français et américains faire état d'informations provenant d'une commission officielle des archives de la sécurité d'État bulgare, selon laquelle vous auriez été recruté comme agent Sabina dans les années 70 par les services secrets bulgares. Je vous lis, Julia Kristeva, parce que c'est en rapport avec Dostoïevski. Ce jour-là, j'étais avec Dostoïevski. Je préparais un livre pour la collection Les auteurs de ma vie, donc il est sorti maintenant, et je réfléchissais à la sienne. Révolutionnaire, bagnard, épris de sa Sainte Russie, enragé contre le nihilisme, mais surtout romancier du carnaval généralisé, capable de sonder la mort de Dieu et la criminalité absurde jusqu'à la pédophilie avec Stavrogin dans Les Possédés. Je me demandais par où commencer, comment restituer son ahurissante résonance avec l'actualité et ce qu'elle m'apportait jour après jour. De temps à autre, un message s'affichait sur mon smartphone, une amie me conseillait de ne surtout pas m'inquiéter, sans préciser pourquoi, un autre proposait de parler de tout ça dès que possible, insuffisant pour me distraire des phrases sinueuses de Dostoïevski qui filent entre les méandres du vrai et du faux. Doit-on comprendre que c'est ce livre et votre nouvelle lecture de Dostoïevski qui vous a aidé à résister à ces attaques ?
Je pense que d'abord, lui, en effet, vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Étrangers à nous-mêmes » et dans lequel il y a cette phrase « Nulle part on n'est plus étranger qu'en France, et nulle part on n'est moins étranger qu'en France. » Et quand j'ai vu le texte publié dans le Nouvel Obs, j'ai senti qu'on nulle part on n'est plus étranger qu'en France. Et que cette gauche n'arrive pas à faire l'anamnèse de ses adhérences communistes et des débris du communisme qu'il habite encore et fait foi à la police totalitaire. Ils ont trouvé, camarades du Nouvel Obs et autres, des dossiers faits par des policiers kafkaïens qui ont créé autour de moi un dossier de surveillance, dans lequel il n'y a aucune tâche, aucune mission qui m'est confiée et encore moins aucun rapport que j'ai pu faire sur telle ou telle chose ou personne. Néanmoins, ils ont lâché dans la nature ce bruit toxique qui m'a fait rire parce que ça fait un effet rocambolesque, qui m'a beaucoup peinée aussi et surtout parce qu'il y a un deuxième volet de ce dossier. Des lettres séquestrées soit avant que mes parents les reçoivent, soit chez eux par une descente de police où je parle, jeune étudiante, de mes difficultés de vivre en France ou de mes propres maladies ou des leurs. Et j'avais l'impression, surtout maintenant quand ça m'arrive où je suis psychanalyste et où pour moi le seul sacré c'est l'intimité de la personne, j'avais l'impression d'un viol psychique du totalitarisme moderne qui est de divulguer ces lettres, non seulement au Nouvel Obs, mais urbi et orbi par Internet, surtout dans la Terre.
D'ailleurs, c'était assez vexant parce que le dossier se concluait quand même par la mention que, comme espionne, vous étiez nul.
Ils se sont rendu compte que je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. Voilà. En tout cas, je n'ai plus. Mais que mon mari est intéressant parce qu'il va à l'ambassade de Chine.
Oui, Philippe Soler. Alors, vous faites un lien quand même. Je vous parler de ça parce que vous évoquez donc les phrases sinueuses de Dostoïevski qui filent, c'est votre expression, entre les méandres du vrai et du faux. Est-ce que vous pourriez expliquer cette expression?
Mais parce que pour ce qui est des dossiers bulgares, il n'y a pas de vrai et de faux parce que tout est faux. Mais ce que je veux, et je me suis expliqué plus longuement.
Non, mais chez Dostoïevski justement, ces phrases qui sinuent.
Dans ce que j'ai donné à la revue Esprit. Mais pour ce qui est de Dostoïevski, justement, dans la mesure où il ne veut pas prendre parti, mais veut montrer l'ambiguïté de l'être humain. Et sur le divan, on ne fait que rencontrer cette ambiguïté. Je l'aime et je le hais. Donc, toute la phrase qui occupe une page commence par dire que c'est formidable et finit par dire que c'est nul. Et les personnages sont tissés de cette ambiguïté, le vrai et le faux. Par exemple, on parlait de Prince Mishkin. Il est un saint, il est un véritable enfant absolu.
Hein,
voilà, dans l'idiot. Il est l'enfant absolu, il dit la vérité, il est d'une sincérité incroyable. Et en même temps, il est un lourdeau, il fait des gaffes, il comprend rien, il est un peu demeuré. Donc, cette beauté maximale, elle s'appuie toujours sur quelque chose qui ne va pas. Ou alors, l'exemple le plus carnavalesque, c'est le Starets Zosima. C'est un saint qui, devant tout le monde, s'incline, il a la vérité, et voilà qu'il meurt, et son cadavre pue. Alors, donc, c'est pas un saint s'il dégage de mauvaises odeurs.
Normalement, les saints, effectivement, la pourriture est parfumée.
Ma Sainte Thérèse, par exemple, quand elle était découverte quelques mois ou années même par son amant, elle sentait bon. Et donc, elle est devenue sainte tout de suite. Mais Zosima a bouleversé tout le monde. Ses ennemis ont dit, on vous a bien dit que c'était pas un saint. Et Alyosha Karamazov trouvait que c'était véritablement l'humain.
Donc, c'est la foi qui pue. Il y a cette dimension-là chez
Dostoïevski veut dire que la foi qui pue, mais il dit aussi que la foi est humaine et qu'il faut accepter ça, mais sans s'incliner, sans en faire un culte. Continuons de réfléchir et de faire des romans. C'est un peu ça le message.
On va parler des personnages justement, on va revenir à ces personnages de femmes qui sont absolument merveilleux dans cette non-binarité, les personnages de femmes de Dostoïevski. On écoute votre deuxième choix musical, vous avez choisi Ella Fitzgerald, Blue Skies.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on.
Ella Fitzgerald, Blue Sky, c'est le deuxième choix musical de Julia Kristeva. Elle est avec nous pour ce temps des écrivains consacré à son livre sur Dostoïevski. C'est le titre d'ailleurs, Dostoïevski, chez Buchet-Chastel, dans la collection Les auteurs de ma vie. Pourquoi ce choix musical, Julia Kristeva?
Mais écoutez, parce que comme Webern fait une autre musique, Ella Fitzgerald fait un autre jazz, on appelle ça ska jazz, et ça consiste en fait à pulvériser les mots. eux-mêmes et de mettre de la passion et de la voix dans quelque chose qui est indicible, translinguistique.
Et ça, ça pourrait se rapprocher de la langue de Dostoïevski que vous avez eu la chance de lire en russe.
En russe, oui. Il ne casse pas les mots, c'est pas du tout une surréaliste ou quelqu'un. Mais dans le russe très oral, il met du souffle. D'où l'allongement de la phrase, d'où les antithèses dans les raisonnements, les personnages qui sont contradictoires et s'annulent, et aussi des adverbes qui sont dans l'approximation. Peut-être, je ne sais pas trop, bien que, moins que...
Le sfumato dostoïevskien.
Voilà, le sfumato, absolument.
Alors j'aimerais, Julia Kristeva, qu'on
vague,
parle des...
Le vague.
Le vague. Comment on dit en russe, le vague?
Smutny.
Ça ressemble à sfumato un peu. J'aimerais qu'on parle de les femmes, justement, de Dostoïevski, qui en font aussi, justement, une lecture extrêmement contemporaine, parce que... Il dit notamment à propos de Nastassia Philippovna un certain nombre de choses. J'aimerais qu'on vous écoute d'ailleurs lire donc un extrait de votre Dostoïevski consacré à ce personnage magnifique dans L'Idiot de Nastassia Philippovna.
Il faut dire que c'est un personnage extrêmement fier et dont le prototype aurait été sa maîtresse, une jeune femme pré-féministe, Apollinaria Suslova.
Bien sûr.
Il a eu deux épouses, Maria et Anna, mais celle-ci a laissé une trace indélébile. Enfermée dans la honte de son destin défiguré, parce qu'elle était violée par son précepteur, Nastassia Philippovna se dresse d'abord comme une féministe en herbe qui s'ignore, contre Totski, son vicieux bienfaiteur, cet homme envers lequel elle nourrit une répulsion inhumaine, c'est une citation. Surtout lorsqu'il lui annonce qu'il envisage de lui arranger un mariage avec un respectable fonctionnaire qu'elle connaît déjà et de la doter par là même d'un confortable capital afin que le bienfaiteur puisse convoler de son côté sans que Nastassia soit en état de nuire. La femme objet ne se laisse pas faire et balance son port, pathétique pressentiment de mytho. L'outragé se jette follement dans la comédie, rire mondain et sarcasme venimeux, puis devient à son tour joueuse, apparemment par dégoût, par dépit, au fond pour rien, en lui criant en pleine figure qu'elle ne tenait plus à rien et encore moins à elle-même. Toute sa vie n'a tenu qu'à un fil. Elle fait monter les enchères, les concurrents augmentent la mise, la rebelle persiste et refuse le mariage. Résiste aussi à épouser le prince, laisse croire le narrateur que son orgueil monstrueux est bien supérieur au rang de princesse. En fait, Nastassia Philippovna est une chercheuse, mais sans bonté, une espèce d'amour hors sexe qu'il amalgame à Mishkine, et pas seulement par l'intermédiaire d'Aglaya, deux femmes qui se jalousent parce qu'elles s'aiment en aimant la même innocence d'ange. En contrepoint au Christ mort exposant les mâles à l'angoisse de mort, cette fière beauté révèle le secret de l'inquiétante étrangeté qui séduit dans son regard quand elle décrit son tableau préféré. Un Christ seul, écoutant un enfant, la main posée sur sa tête, le regard au loin. Une pensée grande comme le monde entier repose dans ce regard. Et c'est un regard pensif, comme les enfants peuvent l'être, pensifs et attentifs, l'enfant le regarde.
Merci Julia Kristeva pour cet extrait de votre Dostoïevski, donc ce merveilleux personnage, Nastassia Philippovna, dont vous faites finalement une sorte de germe, de préscience de la femme MeToo.
Oui, qui passe la plume, si on peut dire, à Dostoïevski. C'est-à-dire que c'est une femme dont la mère est morte dans un incendie, donc tout est ravagé, c'est le monde dévasté, et elle est prise en charge par un précepteur qui la viole, et évidemment, elle vit cette honte de manière inextinguible. Elle essaye de le faire chanter, ou du moins, il croit qu'il peut essayer de le faire chanter. Il lui propose un mariage pour lequel elle va avoir une dot. Elle refuse ça. Elle refuse même d'épouser Mishkine, ce qui lui aurait donné le rang de princesse. Elle est dans une révolte d'une dignité magnifique. Et là, donc, le prétendant que lui assigne son violeur, il a l'argent qui arrive dans une scène extraordinaire. Elle jette l'argent dans le feu. C'est extraordinaire. Elle refuse les porcs, mais elle se laisse tuer par refus aussi et par une sorte de destructivité que le démon porte. Et là, Dostoïevski montre quelles sont les limites des réactions violentes contre le système. Elle veut s'immoler, elle veut se tuer, elle prend le risque de mourir. Ça, c'est le nihilisme russe vient contaminer la France dans la campagne électorale où on voit comment on veut faire de l'œuvre d'art avec ça. Donc, elle devient la copine, elle était déjà, mais elle renforce cette relation avec le double de Dostoïevski, qui est le bad boy Rogojine, un marchand vulgaire et qui ne pense qu'au sexe, et elle se laisse tuer par le sexe, par cet homme qu'elle n'aime pas, elle n'éprouve rien, mais il la tue comme pour montrer que le féminicide est quelque part à l'orée de cette destructivité qui hante aujourd'hui le monde moderne. Mmh. Ça aussi, c'est un thème moderne.
Ça
quand
aussi.
L'homme explose et il n'a pas de valeur, la femme est le débouché sous la main.
Il y a de belles choses aussi. Je voulais citer l'aveu de Raskolnikov à Sonia, donc Crime et Châtiment, que vous avez choisi hein, d'ailleurs dans cette anthologie aussi. Il voulut sourire, mais quelque chose d'impuissant, d'inachevé, se dit dans son sourire pâle. Il inclina la tête et se cacha le visage dans les mains. Et soudain, la sensation étrange, inattendue, d'une sorte de haine mordante envers Sonia lui passa dans le cœur. Comme étonné et effrayé lui-même par cette sensation, il leva soudain la tête et la regarda très fixement. Mais il trouva son regard ému, inquiet jusqu'à la souffrance. Là, il y avait de l'amour. Sa haine disparut comme un fantôme. Ce n'était pas ça. Il avait pris un sentiment pour un autre. Cela signifiait seulement que la minute était arrivée. Il y a beaucoup de théâtralité. On retrouve ce que vous disiez aussi dans ce côté carnavalesque, excessif. Totalement.
C'est la messe et le carnaval en permanence. Mais cet épisode avec Sonia et Raskolnikov me fait penser à deux choses qu'il attribue aux femmes. C'est-à-dire de deviner. Sonia devine qui l'a tué. Parce que lui, il était dans un état de cet état second d'hallucination. Il savait pas vraiment qui l'a tué. Il s'est dénoncé finalement, mais sans trop y croire, etc. Et quand il parle à Sonia, à cause de cette osmose, de cette identification de sa féminité avec la sienne de femme prostituée, de femme réprouvée, grâce à ce transfert, si je puis dire, et sans nommer ce qu'il a fait, elle a compris. Et il a dit « tu devines » et il dit « je devine ». C'est le mot « deviner » qui est extraordinaire et qui me parle, moi, en tant qu'analyste. Il faut deviner.
Et vous n'avez jamais, vous, qui vous définissez comme athée, hein, été finalement un peu lassé par ce plein de religion qu'il y a justement dans l'œuvre de Dostoïevski. Ce plein de Christ, ce plein de religion. Même s'il y a l'absurde, même si l'athéisme parle aussi.
Mais c'est la ça religion qui l'a sauvé. Vous savez, moi, j'ai un vice. Je m'ennuie jamais. Je suis pas lassée. C'est la curiosité. J'essaye de comprendre.
Et rebuté alors, disons. Rebuté.
Dégoûté, en effet. Mais même le dégoût ne m'arrête pas. Je vais pas lâcher les. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Je suis dégoûtée. Mais alors, mais pourquoi il a fait ça? Et comment il a survécu? Mais cet homme est monté sur l'échafaud où il était condamné à mort. Et au moment où on devait tirer sur lui, le roi envoie un messager qui commue sa peine de mort en 5 années au bagne. Et là, on ne donne rien à lire. Une femme lui donne une Bible et les évangiles et il le retrouve avec les moujiks qui sont autour de lui et qui sont des assassins mécroyants. Il retrouve la force de la souffrance qui est auréolée par la résurrection. Et il pense, en effet, et tout au long de son œuvre, cet accrochage au thème religieux est lié au fait que la conscience est souffrante et c'est seul l'élan vers un extra humain, vers la transcendance, qui peut nous sauver.
Quel est votre personnage préféré chez Dostoïevski?
Ils sont tous
Est-ce que vous avez
fascinants
quand même
et on a parlé.
Une favorite.
Je crois que j'ai fini par aimer le dernier, qui est Mitya Karamazov. qui est un personnage fascinant parce que c'est le parricide. Et c'est le thème, après avoir fait le tour de la religion, après avoir apostrophé le président du Saint-Synode, le grand théologien de l'époque, le pilier du tsar, etc., Dostoïevski écrit sur le meurtre du père, qui doit être la liberté ultime. Et Mitya Karamazov est celui qu'on accuse d'avoir tué le père. Il accepte finalement le jugement parce qu'il a voulu le tuer. Il pense que tout le monde veut tuer le père. Ça tombe sur lui, il l'a pas fait, mais il va accepter. Et alors, deux choses me font rire dans ce personnage et me le rend très sympathique. Il incarne le ridicule homme européen moderne. Parce que quand il est dans ce désarroi, il accepte le bagne, il sait pas trop bien. Il trouve une poésie européenne qui exprime quand même son goût de la vie et son ancrage dans la jouissance. Parce qu'il s'avoue jouisseur.
Pourquoi européenne ?
Vous allez voir. Parce que le poème qu'il aime, c'est l'hymne de Schiller. Qui va devenir l'hymne européen. Il ne sait pas encore que ça va devenir l'hymne européen.
Mais les questions,
l'hymne à la joie, dans laquelle il parle d'une espèce d'orgie entre les hommes et la terre, avec le vin, avec des grâces couronnées, des jouissances d'insectes et des anges qui s'inclinent devant Dieu. Donc, ces textes va inspirer Beethoven, qui va faire la 9e symphonie, qui devient l'hymne européen, mais avec d'autres mots, parce que ces mots-là, d'abord, les Européens ne voulaient pas se mettre d'accord dans quelle langue on va le mettre, mais finalement, ils ont pris quelque chose de très éthéré, « Oh, quel magnifique rêve vient illuminer mes yeux !» C'est pas le texte, mais c'est quand même par l'inspiration de Schiller que nous avons un hymne européen. Mmh. Et puis, ça continue, il va épouser la maîtresse de son père, et il rêve qu'après le bagne, ils vont partir en Amérique, ils vont apprendre l'américain, même si sa femme n'est pas faite pour apprendre des langues. On voit déjà les citoyens du président Poutine qui partent en Amérique, mais ils vont rentrer en Russie pour mourir en Russie. Donc ça se termine en comédie, en carnaval. Et c'est l'homme européen.
Donc Mitya.
Donc Mitya.
Voilà. Donc. Pour terminer, Julia Kristeva, puisque vous nous parliez de cet hymne européen, vous avez confié à Georges Niva, dans une interview, je crois pour la revue Esprit, qu'au moment de l'élection présidentielle, on vous avait demandé, dans une interview, ce que vous feriez si vous étiez présidente. Mmh. Et vous avez répondu dans cette interview, ce que vous disiez à Georges Niva, mettre la personne au centre. Et je me suis demandé, après avoir lu votre Dostoïevski, si c'était pas, au fond, bien sûr, vous répondiez à une question, mais est-ce que vous ne parliez pas encore de Dostoïevski, l'écrivain qui a véritablement mis la personne au centre?
Tout à fait. Il a dit, il le fait dire par Kirillov, que Dieu a tourmenté toute sa vie. Mais je pense qu'en tant qu'écrivain, il a traduit cette tourmente en souci de l'autre humain. De la personne humaine. Il a remplacé Dieu, qui était toujours là dans son esprit, mais comme un vrai chrétien, il croit à l'incarnation, il a cherché le divin, le diabolique dans le sous-sol de l'humanité. Et je pensais que vous allez me conduire vers une autre façon que j'ai de m'intéresser à la personne au centre, c'est le travail que je fais à l'hôpital Cochin, dans le secteur sur les étudiants, la maison des adolescents qui s'appelle Solène, où mon séminaire sur le besoin de croire a été remplacé de l'Université de Paris 7 là-bas, avec le professeur Marie-Rose Moreau, et nous accueillons des adolescents, des lycéens qui sont en manque d'idéaux, ce qui donne des maladies d'idéalité, qui sont les anorexies, les dépressions suicidaires, les toxicomanies, et maintenant des gens tentés par le djihad. Et nous essayons non pas de combattre leur croyance ou leur non-croyance, mais de parler de la souffrance et de la jouissance indicible et de leur donner une possibilité de vivre en parlant.
En lisant aussi ? Vous leur conseillez justement aussi, de lire Les Possédés, par exemple?
Pas vraiment, mais vous savez, je donne un exemple et j'espère qu'on aura le temps de le dire. Une jeune fille qui était suivie pour anorexie décide qu'elle est féministe, qu'elle déteste les hommes, mais elle aime Allah car elle dit la vérité. Et il va lui faire beaucoup d'enfants. Elle se couvre de burqa, il ne va plus à l'école. Le français est une langue de colonisateur. La philosophie est un produit de la colonisation. Elle est bonne en maths, mais elle veut rien entendre d'autre. Elle vient quand même dans cet hôpital où nous avons une équipe interdisciplinaire avec des gens qui viennent de l'islam, du judaïsme, du christianisme, des athées, des philosophes. On commence à parler, il commence à parler de ses souffrances et de ses angoisses, et elle trouve à travers dans l'atelier d'écriture un livre de poèmes d'un mystique arabe à l'âge traduit par Roussillon en français, qui parle de Dieu en termes d'amour. Et elle commence à le lire et elle trouve sa soif d'idéaux dans ce texte en français. Elle ne va plus au djihad, elle finit pas son bac, mais elle fait des études pour devenir aide-soignante. Et cette histoire m'a fait penser au rôle de la traduction dans la culture européenne aujourd'hui, et à une phrase de Barthes qui disait que seule la plénitude de la langue peut nous aider quand on menace le vide divin. Moi, je dirais aussi, seule la plénitude de la langue peut nous aider quand on menace le trop-plein divin. Et peut-être Dostoïevski viendra après dans la lecture de cette jeune femme, mais on a là aussi une autre plénitude de la langue.
Merci beaucoup, Julia Kristeva, voilà, pour cette leçon de plénitude et de Dostoïevski. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Dostoïevski, c'est chez Buchet-Chastel, c'est dans la collection Les Auteurs de ma vie, donc un essai de vous, suivi par une anthologie des textes que vous avez choisis, puisés dans l'œuvre de Dostoïevski. Et puis un autre livre, signé justement, vous en parliez, avec Marie-Rose Moreau, Grandir, c'est croire, c'est chez Bayard, et c'est l'idée aussi de réfléchir sur ce sujet encore peu pensé, qui pourtant éclaire et nourrit aussi, doit nourrir l'époque dans laquelle nous vivons et cette phase de transition, je l'espère, c'est-à-dire le besoin de croire, voilà. Et est-ce qu'on peut en discuter, surtout de ce besoin de croire? Merci beaucoup, Julia Kristeva. On termine avec votre dernier choix musical. Vous avez choisi Griselda de Vivaldi.
Ah oui.
Voilà, Agitata da due venti.
Voilà, voilà. Ça, c'est la passion de Nastassia Filippovna, si elle aurait pu chanter.
Ah, elle aurait
si
pu
on
chanter.
L'avait pas, si elle avait pu chanter et si on ne l'avait pas assassinée. Donc aujourd'hui, elle aura chanté ça.
Voilà, donc dernier hommage à Nastassia Filippovna. C'est interprété par Cecilia Bartoli. Merci beaucoup. C'était Le Temps des Écrivains avec Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Olivier Dupré à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter. Podcaster à l'infini sur francecultures.fr, cette émission en compagnie de Julia Kristeva et de Dostoïevski. Oh,
Agitata, da dolenti fremino.